première.
Oui.
Oui,
oui. 22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
Liège hors les murs. À la châtaignerie à Flémal, efflorescence. Jusqu'au 3 novembre.
La pièce à côté est dédiée à un couple. Michèle Angler est toujours vivante, tandis que son mari est mort il y a plusieurs années. Et donc elle a décidé de faire dialoguer ses propres créations. Elle, elle est sculpteur, et lui est dessinateur surtout, et peintre également. Et donc elle a fait dialoguer ses œuvres et les œuvres de son compagnon disparu.
À la châtaignerie à Flémal, efflorescence, jusqu'au 3 novembre. Par les mille motards, cette idée de fondation.
La fondation passe par Flémal. C'est Léopold Plomté, qui a un lien avec la châtaignerie, évident, qui a pris contact avec moi dans les années 2005-2006, parce qu'il avait une réflexion sur l'avenir de son patrimoine, pas seulement sa production, bien sûr, mais également ses archives. Et il voulait essayer de les mettre un peu à l'abri à la province de Liège. Et donc on a étudié les solutions juridiques, parce que il fallait bien sûr que ces œuvres données à la province puissent peut-être continuer à vivre et être vendues pour l'artiste et des choses comme ça, ce qui juridiquement était un peu difficile. Et malheureusement, quand Léopold est décédé en 2008, on n'avait pas réalisé cette fondation. Mais en tout cas, la préoccupation que j'avais comme député de la culture, d'être attentif au patrimoine des artistes, c'est un élément que j'ai continué à percevoir au fil de mes rencontres. Et cela aboutit notamment avec le cirque d'hiver et le fait que la province de Liège a repris le fonds du cirque d'hiver, qu'on a fait une exposition au musée de la vie wallonne en 2018. Mais on a, dans le processus de réflexion, constaté que créer un véhicule juridique solide et indépendant de la province, mais en lien avec la province, c'était la fondation. Et donc on a créé cette fondation, d'autant plus que dans les rencontres, Guy Vandeloise et Juliette Rousseff, les deux premiers artistes qui participent à cette fondation, avaient eux-mêmes la préoccupation de l'avenir de leur patrimoine, et donc ils ont été les moteurs récents de cette fondation.
Avec, à la châtaignerie à Flémal, Paul-Émile Motard, Isabelle Neret, Guy Vandeloise.
Les créations de Fabienne Guérens, c'est un univers assez particulier. On peut qualifier ces créations d'intranquilles. Donc ici, nous avons Jack, Marc, Assin, comme de juste. Et là, nous avons une scène de crime avec ce petit vison qui a assassiné la convention féminine représentée par une Barbie. C'est une œuvre d'ailleurs qui appartient à la Fondation pour l'art et la culture, qui est assez douce et qu'on peut caresser. C'est une douceur sournoise.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinsky.
Authentique, me tento,
Le monde invisible.
Le faire vivre. Ce qui explique l'exposition aujourd'hui à la châtaigneraie. Mais nous avons dans des réflexions en cours pour les années futures d'autres lieux d'exposition, à Liège ou en dehors, bien sûr, de la ville et de la province, et de pouvoir éditer également, non seulement les catalogues liés aux expositions, mais également le fruit de la découverte des archives, organiser des colloques, bref, assurer une protection à nos artistes qu'il soit vivant aujourd'hui ou bien décédé.
Toute l'œuvre de Fabienne témoigne réellement d'une inquiétude, parce qu'elle se dit avoir une enfance vraiment intranquille. Et on peut percevoir dans toutes ses œuvres qu'il y a un malaise face à l'existence et aussi peut-être à l'évolution de l'humanité. Je vais d'ailleurs vous montrer l'œuvre suivante. Et dans la petite tourelle de la Châtaigneraie, et qui s'appelle donc La Leçon, qui est constituée de deux sculptures en plâtre blanc, avec un singe très réaliste et très sage, qui regarde une enfant qui, face à la sagesse de l'animal, en perd la tête et les bras. Donc autant la pensée que ses moyens d'action. Enfin, c'est aussi une interprétation personnelle.
Liège hors les murs, partirait je Nico. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Isabelle Neuret, qui est commissaire de l'exposition intitulée Efflorescence.
À la Châtaigneraie.
Ouais. Efflorescence, ça veut dire
ben, ça évoque un renouveau, quelque chose qui ressurgit. Qui renaît. Et Fabienne dit, j'ai noté ici une citation de Fabienne, « Ici l'univers est impudique et baroque, sage et lumineux, ici on apprivoise. Ici l'animal se trouve être souvent le refuge de notre mythologie intérieure, ici parfois on trouve ce qu'on ne cherchait pas. »
Peut-être voilà. Est-il bon d'insister sur le fait que, quand personnellement j'ai eu l'idée d'une fondation,
Guivant de l'Oise,
c'est parce qu'en fait, depuis mes études à l'université, j'avais eu l'occasion de circuler dans les ateliers d'artistes liégeois, et qu'en fait, j'avais trouvé des œuvres abandonnées dans des maisons vidées de leur contenu, ou bien laissées dans des greniers humides, ou dans des garages pollués par les gaz d'échappement. J'avais retrouvé également, bien sûr, des tas d'œuvres dans les WC, c'est extrêmement fréquent, des enfants. Des œuvres, par ailleurs, je ne citerai pas de nom, mais de la plus haute qualité. J'ai vu des dessins servir de cible aux fléchettes des enfants. J'ai vu des archives d'artistes liégeois déposées à la brocante. J'ai appris que des lettres, des catalogues, des notes, des écrits, tout ce qui permet de retracer la vie ou le parcours d'un artiste avait été jeté à la poubelle. Je ne sais que trop, par ailleurs, que très souvent, la famille d'un artiste décédé n'a aucun intérêt pour l'œuvre, il n'est qu'embarrassé par le fait qu'il faut la mettre dans un lieu, ça coûte cher, etc., etc. Et puis de toute façon, pour ce que ça vaut, c'est bien connu. Mais par ailleurs, créer une fondation m'apparaissait essentiel, plus essentiel encore, par le fait de la disparition du musée de la Roiland. Disparition qui, lorsqu'il était à la Beauvrie, justement, m'avait permis, alors que je faisais mes études, de connaître, d'apprendre à connaître, à reconnaître l'art liégeois, et notamment par le biais d'expositions d'une vingtaine, 20-25 œuvres de Richard Reins, de Philippe, de De Witt, Rassenfosse, que sais-je.
Guivant de l'Oise, je l'ai également croisé lors de mon mandat de député de la culture, comme artiste.
Paul-Émile Motard.
Comme partenaire d'exposition ou de travail qu'il a réalisé, nous avons, au niveau de la Fondation, édité un livre il n'y a pas longtemps sur justement son approche de l'art et de la manière dont il l'imagine.
Et là, vous avez encore cette grande figure de chien-loup qui n'est sans doute plus guidée par la main de l'homme.
Et qui est Fabienne Guérens?
C'est une artiste qui a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts ici à Liège, qui a été d'ailleurs formée, voire déformée par l'Académie des Beaux-Arts à Liège. Et donc, Elle vit maintenant à Boisfort, à Bruxelles, dans une petite maison où elle est entourée complètement de ses créations, de son univers et de son univers intérieur.
C'est par la connaissance que j'ai pu avoir justement de ces œuvres-là que je me suis rendu compte, quand j'étais étudiant, qu'il y avait un art liégeois. Ce qui n'est plus possible à l'heure actuelle du fait que le musée de la Brobeuvrie est tel que pratiquement plus aucune œuvre d'artiste liégeois n'y est présentée. Et de toute façon, imaginez bien que si vous allez dans ce musée et que vous voyez un Richard Reis, un De Witt, qu'est-ce que vous pouvez imaginer de l'œuvre d'un artiste? Donc, tout cela fait que, bien sûr, j'ai été très éprouvé pendant toute ma vie. Et ça n'a fait que se confirmer, bien sûr, quand j'ai assisté à la suppression des articles et des commentaires consacrés aux arts plastiques dans les journaux et à la radio.
Donc moi, je pense que c'est un artiste qui est un des artistes majeurs de Liège. Il est dans une mouvance qui lui appartient bien à lui, je pense, et qui manie en plus de ça le langage et les mots d'une façon tout à fait remarquable. D'ailleurs, on va présenter un livre aussi à l'occasion de cette exposition à la Châtellerie.
Et puis, évidemment, j'ai vécu, je vis, jour après jour, le mépris mêlé de condescendance dans lequel l'art liégeois est tenu urbi et orbi. Comment pourrait-il en être autrement, bien sûr, puisque d'abord le musée de la Roland, je l'ai dit, n'existe plus, et que les études sérieuses sur l'art liégeois après le XVIIe siècle sont pratiquement inexistantes, et que les rétrospectives qui sont organisées de temps à autre à la Beauvrie ou que sais-je, sont rares et sans aucune valeur scientifique.
Donc, c'est un artiste qui a également été professeur, et le fait qu'il ait enseigné a créé autour de lui tout un courant qui est partagé par les artistes qui exposent ici à la Châtellerie, et pas tous.
Il y a aussi des rois en treillis dehors, si vous avez vu. Les Wa. W-A-A.
C'est dans ce contexte, donc, que j'ai cherché à créer cette fondation, parce qu'en fait, il importe certes de sauver des œuvres, mais sauver des œuvres, c'est en même temps sauver des êtres. C'est en même temps sauver une culture. Étant entendu que, dans un second temps, ce qui est essentiel, et justement c'est ce qui se passe à présent, on accorde la plus grande importance à l'exposition de ces artistes, leur présentation. Pourrais-je imaginer, par exemple, qu'un jour se crée un musée de l'art liégeois, étant entendu que, d'autre part, l'étude approfondie doit être entreprise de tous ces artistes, et on imagine mal qu'en fait, justement, la section Histoire de l'art à l'Université de Liège ne s'applique pas à ce genre de choses, de telle manière qu'en fait, une reconnaissance internationale, car elle pourrait se justifier avec un bon nombre d'artistes, me semble-t-il, puisse en fin de compte nourrir l'inconscient collectif du lieu d'où on est issu, apprendre en fin de compte à nous reconnaître.
Voici une interprétation du gisant. Et donc ici, vous avez deux gisants avec des patins à glace, veillés par un manchot empereur. Je ne vais pas me lancer dans une interprétation car ça doit vraiment pénétrer à l'intérieur de soi. Mais il faut savoir que Fabienne, au fil de son travail, a identifié le patin à glace comme étant un animal également en voie de disparition. Et donc, c'est vrai qu'il y a un renouveau, inquiétude face à l'avenir de la planète.
Quand on entre au rez-de-chaussée de la châtaigneraie à Flémal,
on rencontre d'abord Juliette Rousseff, Émile Alexandre.
En fait, il se fait que nous avons fait nos études pratiquement ensemble, et à l'académie, et puis après à l'université, à un an de distance, quoi. Il s'est fait que nous avions, je veux dire, une philosophie générale qui était proche, tant au niveau, je veux dire, politique de façon très large, qu'au niveau de la création artistique. Même si, et heureusement d'ailleurs, nos travaux sont essentiellement différents. Alors, Émile Alexandre procède d'une famille bourgeoise extrêmement riche, qui possédait notamment des intailles, des émaux de l'époque séleucide ou que sais-je, enfin des choses comme ça, c'était dans des boîtes à cigares. Et sa mère me les montrait comme ça, en agitant, vous voyez, il y en avait, incroyable. Gravure de Rembrandt, peinture d'Hubert Robert, de Venet, enfin, etc., etc. Mais tout cela dans un foutoir incroyable. Et Émile Alexandre est un homme qui, en fait, n'appartenait pas manifestement à la réalité, quoi. Quand, en fait, à l'université, on était amené à donner un cours, puisqu'à chacun à son tour, on donnait un cours, le professeur disait à chaque coup pour Émile Alexandre, ce cours-ci, vous n'aurez pas à l'étudier. Non pas que c'était, comment dire, ridicule, sans intérêt du tout, mais parce que c'était à la limite du compréhensible, dans la mesure où sa culture était telle qu'il reliait des tas de civilisations ensemble et faisait qu'en fait, nous, qui étions de loin moins cultivés que lui, nous n'y comprenions rien, quoi. Et quand je l'ai connu à l'académie, donc tout ça pratiquement à la même époque, dans la fin des années 50, début 60, voilà. Et alors, il était complètement à part. Et notamment cet homme qui était épris de la culture italienne, de la Renaissance, qui en fait n'envisageait au départ que d'essayer de rendre compte de la beauté universelle, la beauté plastique, etc. N'hésitez pas à travailler une année sur un grand tableau, à vrai dire, pour simplement délimiter les lignes du nombre d'or, jusqu'à ce qu'en fait, pratiquement chaque centimètre carré de l'œuvre soit en fait en nombre d'or. Après quoi, il commençait à peindre, étant entendu que ces peintures, elles ne sont pratiquement jamais terminées.
La création est toujours présente et redémarre, même les artistes morts que nous accueillons dans la Fondation reprennent vie à l'occasion de cette exposition et sont remis à l'honneur, côtoient la vie, quoi.
Cet homme était vraiment fasciné par la culture grecque, romaine, grecque surtout, et la Renaissance italienne, avait d'autre part des attaches aussi bien à la culture mérovingienne, à toutes les cultures, quoi.
C'est l'inverse de l'oubli.
Oui.
Il va en plus prendre des positions, je vais dire politiques, sans qu'il y ait de parti impliqué là-dedans. Par exemple, dans la fin des années 60, on en était à, comment dire, donc à l'urbanisation contemporaine issue de Le Corbusier, c'est-à-dire les autoroutes urbaines, les buildings, etc. Et notre échevin de l'époque, qui était cependant un professeur d'université, épris de Van Eyck, de la culture liégeoise, etc., n'avait de cesse que créer des autoroutes urbaines qui auraient supprimé toute une partie importante du patrimoine religieux, notamment, mais civil, liégeois. Ce qui fait qu'on a fait partie comme ça d'un comité très large, avec des personnes nettement plus qualifiées que nous en termes politiques justement, pendant plusieurs années, et on est arrivé quand même à sauver un bon nombre d'édifices, étant entendu que par exemple Jean Lejeune considérait que pour le dessus de la place Saint-Lambert, seule l'église Sainte-Croix devait être sauvée, tout le reste devait être supprimé. Il parlait alors là d'îlot de beauté. Voilà, il y aura un îlot de beauté, puis tout le reste supprimé. Bon.
Le monde pataphysique de Tania Lorandi, qui est une Italienne, qui aussi a fait ses études à Liège, mais qui est retournée en Italie. Et donc, elle est devenue une figure marquante de la pataphysique en Italie. Là, donc, nous avons le baron Hildebrand, qui a généré le fouille-merde. Et ici, vous avez toute l'éthologie et les tribulations de ce fouille-merde, qui est un alchimiste, puisqu'il transforme la merde en or. D'ailleurs, vous avez tout un parcours, avec diverses représentations, son comportement, hein, puisque c'est quand même éthologie. Vous voyez ici qu'il est devant une croûte, car il raffole des croûtes, forcément, une vraie croûte peinte. Et donc, vous avez sa nourriture.
On a fait partie de ces mouvements-là pendant un bon bout de temps. Mais le fait que, malgré tout, une partie de ce patrimoine a été bazardé, quoi, a été supprimé au profit soit d'autoroute, soit de building, que sais-je, l'a profondément déprimé. Une autre chose qui le déprimait fort, c'était le fait que ce qui se fait à Liège au niveau artistique notamment, était totalement ignoré, urbi et orbi. Et qu'en fait, une donation, ne serait-ce que ça, j'ai vécu ça très dernièrement, une donation au musée de Bruxelles était refusée parce qu'en fait elle venait d'ici. Et d'un peintre que je considère comme tout à fait important, en l'occurrence Maurice Pirenne.
Bon. Que ce fouille-merde major se nourrit des lacets d'élan, du crottin de cheval, de crottes d'hippopotame, de bouts de vache, de crottes de tapir, de pétoulettes de mouton.
Lorsque j'étais amené à organiser une rétrospective ici, d'ailleurs à la Châtaigneraie, de son œuvre, j'ai été absolument épouvanté, finalement, je l'ai bien compris, de trouver, comme ça, dans une farde de dessin, au dos d'un dessin, un texte où, en fait, il indiquait tout à fait clairement que son vœu était de mourir, quoi. Et il est mort, effectivement, très, très, très jeune, en étant passé à la fin de sa vie, de cet art de la beauté idéale, etc., dans le bon sens du terme, à un art qui, à mon sens, précède même ou est contemporain du nouvel expressionnisme de Cookie et des autres.
Donc vous voyez le petit fou de merde avec sa vulve apparente. Et Tania Lorandi a un petit rituel où elle met à disposition un petit pot de vaseline et on peut mettre son doigt dans le trou de cul du fou de merde. Voilà, c'est une expérience particulière.
Ce que vous dites, Guy Van de Loise, est dur.
C'est un constat. Au niveau des rétrospectives, la dernière dont je me souviens, c'est celle de Marcel Caron, qui est un peintre extrêmement important, un créateur de meubles, un sculpteur tout à fait étonnant. Et en fait, le texte du catalogue découlait d'un mémoire de licence qui remonte à des années, fait par une autre personne, quoi. Voilà. Et c'était simplement réactualisé au niveau de la forme, c'était tout. Ce n'est pas avec cela qu'on peut faire quelque chose, en plus de cela. À partir du moment où on a un artiste important que l'on veut mettre en évidence, ce qu'on fait, c'est s'arranger avec des institutions extérieures de façon à l'y montrer. À partir du moment où, en fait, on ne met aucune publicité à l'extérieur, même pas dans des revues, je veux dire, populaires, entre guillemets, comme Beaux-Arts, n'est-ce pas ? Que voulez-vous que tout ça devienne ? Alors, il est tout à fait logique, hélas, quand, en fait, à l'extérieur de Liège, je parle ici ne serait-ce que de la Belgique, mais on ignore totalement ce qui s'y passe. Et dans ce sens-là, j'y fais allusion tout à l'heure, les seules études qui soient vraiment sérieuses, ben, de fait, elles s'arrêtent au XVIIe siècle avec les travaux de Kéris. C'est tout. Pour le reste, ben, vous savez, des petites choses comme cela, mais rien qui soit vraiment diffusable internationalement.
Alors ici, vous découvrez les portraits de Pierre Tchèque, qui est tchèque. C'est des portraits vraiment acerbes et rageurs de la société.
Je suis liégeois, très liégeois, mais je ne connais que trop le fait que les liégeois sont tellement principautaires, si vous voulez, qu'en fait ils se disent « mais si je commence à louer un artiste liégeois alors qu'il n'est pas encore connu international, je vais peut-être paraître ridicule ». Donc on fait en sorte de donner à entendre qu'un artiste liégeois, certes valable, et découle de tel ou tel peintre connu en France, par exemple. Et ce faisant, on fait en sorte qu'il ne peut pas être vu comme authentique, mais comme dépendant d'eux, élève d'eux, imitateur d'eux, n'est-ce pas ? Et c'est le cas pour Auguste Donner, alors qu'en fait, ces gens-là, Auguste Donner à Saint-Fort, sont exposés avec les symbolistes, avec les nabis. Et puis alors on dit que ce sont pratiquement des sous-nabis. Des choses comme celle-là, ben, tout est à faire. Tout est à faire, je m'en suis rendu compte depuis le temps où j'ai fait mes études et où j'ai fait mon doctorat sur le 19e siècle liégeois, que je comptais continuer. Mais enfin bon, la vie a été telle que j'ai obliqué ailleurs, quoi. Parce que ce n'était pas possible pour moi de faire quelque chose vraiment de positif à l'intérieur du milieu de l'époque.
Qui transparaît, qui remonte à la surface. Ça ne dépend pas d'une saison, ça dépend d'un phénomène. Et ici, ben, la création est toujours présente et redémarre. Même les artistes morts que nous accueillons dans la fondation reprennent vie à l'occasion de cette exposition et sont remis à l'honneur, côtoient la vie, quoi.
C'est l'inverse de l'oubli.
Oui. C'est aussi un artiste qui nous a quittés. J'ai fait dialoguer ces œuvres qui sont vraiment des tout gros plans, des macro-plans, on va dire, sur des pierres, comme ça, ça nous donne un effet particulier, des coquilles. J'ai fait dialoguer ça avec Brigitte Corbizier, qui est une graveuse. C'est une artiste qui fait également des animations, des petits films d'animation avec des gravures ou des papiers déchirés. C'est très original, c'est vraiment une œuvre d'art en mouvement. Donc, voilà. Je vous invite à venir la découvrir.
Malgré les grains d'orge, malgré...
Ah mais là, des personnalités, je dis bien des personnalités, une personnalité comme Fernand Grain-d'Orge, comme Van Zeulen d'ailleurs aussi dans son domaine, ce sont des personnalités qui, j'ai envie de dire, travaillent un peu en dehors.
Il y a un film qui évoque la nature et sa relation avec l'homme, la violence, ses pigeons volent. Un film plus philosophique qui s'appelle Héraclite, qui parle du temps qui s'écoule, et un film qui s'appelle Théogonie, et donc qui explique la naissance des dieux, forcément, et des dieux grecs ici. Elle était élève de Dacos. C'est Dacos qui lui a donné l'envie de graver. Parce que Brigitte a une vie un peu compliquée. Au départ, elle était professeure de gym, elle a eu un accident. Et donc, elle s'est lancée dans la voie de l'art, qu'elle avait déjà en elle, évidemment, et qu'elle n'a jamais quittée.
Fernand Grindorge, qui est évidemment le créateur de la PIAO, qui a été une institution qui m'a vraiment aidé, qui m'a révélé l'art mondial, est en fait un homme qui, certes, voulait faire en sorte, et il y est arrivé, que les gens du lieu, les gens de Liège, participent d'une vision plus contemporaine. Quoi. Mais il ne pouvait pas, par ailleurs, en même temps, s'occuper de faire reconnaître les artistes liégeois qu'il exposait. Mais il est bien évident que là, il faut qu'il y ait des journalistes, qu'il faut qu'il y ait des historiens de l'art, que sais-je, n'est-ce pas, qui en fait fassent un travail. Et ça, ça n'a jamais été fait. Jamais. Ou alors ce sont des petits travaux qui peuvent être extrêmement sympathiques, comme on dit. Et j'emploie le mot sympathique sans sens péjoratif, n'est-ce pas, qui sont de l'ordre de l'amitié, comme par exemple Brigitte Closset avec Armand Sylvestre, par exemple, pas qui est un peintre tout à fait important, qui est totalement inconnu. Ou alors, je repense à un peintre auquel je faisais allusion tout à l'heure, Maurice Pirenne. Mais Maurice Pirenne, c'est évidemment un peintre essentiel internationalement. Bon, en son temps, dans les années 60, j'ai écrit un livre là-dessus parce qu'André Blavier, le grand pataphysicien, me l'avait demandé. C'était un ami de Pirenne. Et puis, je ne sais rien dire d'autre.
Alors, nous allons maintenant pénétrer dans une atmosphère un peu plus douce. Avec Roland Castro, qui vraiment ici nous présente des photographies, mais qui sont des véritables essais techniques. Tirage au charbon sur riz, de la gomme bichromatée, et les accidents lui permettaient justement de découvrir d'autres chemins et d'autres voies.
Cette maison, elle est magicienne aussi parce qu'elle vous séduit et elle vous happe. Et quand on l'a vue une fois, on n'oublie jamais.
Et il disait, je ne peux me limiter à déclencher, clic-clac. J'ai besoin d'une photographie où il y a des papiers à plier, à déchirer. Quand un phénomène accidentel se présente, si je l'accepte, j'essaye de le reproduire. Parfois, je me dis, est-ce que j'ose faire ça ? Maintenant, j'ose. Tout ce qui se présente, j'ose le faire et le refaire. J'ose me l'approprier, mais il faut évidemment que je puisse rencontrer cette surprise présente. Il faut que je sois en accord avec ce qui arrive, avec cet accident. Ce n'est pas un accord avec des règles explicites ou implicites. Je crois que c'est un accord avec ce que je suis, plus profondément qu'avec des règles. C'est aussi un artiste qui nous a quittés.
1967, et avec 2 ans de construction. Monsieur Jacques Gillet, l'architecte, a fait participer ses étudiants pour la construire, et d'autres professionnels pour la projection du béton.
Dans cette émission du Monde Invisible, Paul-Émile Motard, je vais me rendre, après la Châtaigneraie, à la maison sculpture.
La maison qui est rue de la Belle Jardinière.
Je vous montre Mirlicht.
Oui, je connais cette maison. Je n'ai pas vu l'exposition, c'est la Galerie 4 qui organise cette exposition. Cette maison est assez remarquable. J'ai eu la chance, en fait, dans mon enfance, d'habiter près de cette maison. Donc je la connais, ayant été la découvrir lors de sa construction.
À l'époque, il y avait des garages dans les maisons, même dans une maison organique.
Tout à fait, il y a 2 garages, le garage de chevaux et le garage d'Yann, et qui ont été ici unifiés par des tôles brutes.
J'ai à mon agenda, en tout cas, la découverte de cette exposition, et donc, quand je l'aurai vue, je pense que je ne serai pas déçu.
Le jardin est à l'image des propriétaires qui ont fait construire la maison. Ils ont vraiment voulu laisser la nature sauvage et se réimplanter naturellement. Donc les noisetiers se sont vraiment bien installés, et pour le bonheur des écureuils.
C'était la maison personnelle de l'architecte ?
Pas du tout, maison pour son frère, oui. Donc il l'a construit pour la famille de son frère. C'est ce que moi je trouve très intéressant dans l'approche de l'architecture organique ici, c'est qu'il y a un architecte, c'est sûr, qui a une vision, c'est très sûr, très certainement aussi, mais il y a aussi un occupant qui va y vivre et qui a vraiment joué le jeu jusqu'au bout. Et donc il y a un compromis qui est en place, et ça se ressent, je trouve, dans la limite des courbes, dans la limite des ouvertures, dans tout ce dialogue-là est bien en place et a construit le bâtiment, je pense. Ouais.
Vincent Servet, c'est mon mari, ingénieur architecte, connu à Liège parce que c'est lui qui a réalisé la passerelle de Liège, la belle liégeoise.
Quai 4, hors les murs, maison sculpture, jusqu'au 31 octobre. À Angleur, rue de la Belle Jardinière, au 318. Avec Cécile Servet, Vincent Servet, Michel Leonardi. Guy Vandeloise, dans cette émission Outre Flemmal, je vais me rendre à Angleur, dans la maison Gillet de l'architecte Gillet.
Oui,
vous
oui.
La connaissez ?
Je la connais, mais il faut que j'y aille vraiment, que j'entre dans la maison. Mais ah oui, alors là, c'est vraiment... comme un homme tout à fait surprenant, hein, avec son architecture organique, qui est pour moi vraiment représentative d'un moment de l'architecture tout à fait exceptionnel et qui est mondial. Et il m'apparaît qu'effectivement, là, c'est une des plus grandes réussites de l'architecture mondiale dans ce sens-là, absolument.
En fait, je pense qu'à la base, l'architecture organique, elle est en rapport avec la nature. Il y a ce rapport-là qui est très clair ici. Les transparences sont directement dans la nature. Mais il y a aussi, je pense, à l'époque, une rupture par rapport à une certaine architecture très géométrique, enfin très, très basée, où il y avait quelque chose qui voulait marquer un décalage. Et Jacques Gillet était plutôt dans cette approche. D'ailleurs, il a enseigné toute sa vie, hein, à Lambert Lombard, et il a toujours poursuivi cette démarche liberté de forme, liberté d'approche, de ne pas se confronter trop à la technique. Elle est importante, mais c'est d'abord l'expression de quelque chose.
Il a créé son bureau ici début d'année et il a racheté la maison pour faire ses bureaux.
C'est vraiment un mode de vie. Et c'est ce qui est assez remarquable dans l'habitation de la famille Gillet, c'est qu'ils se sont investis dans ce mode de vie vraiment jusqu'au bout. Parce que construire quelque chose, c'est bien. Y vivre 47 ans, comme la maman l'a fait, c'est encore plus remarquable. Donc c'est qu'il y avait une équation parfaite entre l'attente et la construction qui a été faite.
Cécile Servet. Et je suis galeriste depuis 5 ans à la galerie Quai 4 sur le quai Churchill à Liège.
Le seul meuble construit, c'est la table de la salle à manger que vous aviez là-bas. Il y a dans la cuisine des meubles qui ont été refaits par une amie d'une des filles à l'époque, donc qui a été reconstruite. Et le reste, c'était plutôt des meubles modulaires, entre guillemets, parce que la géométrie des volumes fait en sorte que c'est assez compliqué. Il y avait quand même 2-3 meubles de famille. Hein. Ça reste, je crois, un peu dans toutes les familles. On traîne quelques meubles historiques avec soi. Ouais.
Et cette fois-ci, c'est hors les murs. Donc Vincent m'a invité à faire une exposition dans la maison sculpture et ses jardins pour donner la possibilité aussi de visiter cette maison.
Dans l'esprit, je ne vais pas dire cocon parce que ce n'est pas ça, mais dans l'esprit enveloppant, comme ça, on est effectivement toujours dedans. Mais en fait, ce qui est assez étonnant et dans le bon sens du terme, c'est que nous, on l'occupe en bureau. Et les espaces fonctionnent excessivement bien pour des bureaux, alors qu'à la base, c'est plutôt des chambres. Mais ce qui est magnifique, c'est les entrées de lumière changent tout le temps. Il y a des fentes lumineuses de tous les côtés. Et donc, on a une luminosité qui varie en fonction de la saison, en fonction du moment de la journée, et des points de vue qui sont toujours assez surprenants. Donc ça, c'est très, très gai. Oui.
J'ai rebondi en lui proposant d'inviter les artistes avec qui il avait déjà travaillé en tant qu'ingénieur, puisque ces artistes qui font des œuvres monumentales en art public ont besoin de calculs, soit pour le socle, pour la structure. Les 10 artistes invités ici ont travaillé avec lui. La bétonnière d'Alain de Clercq, c'est une œuvre qu'il avait déjà réalisée au Botanique et qui lui est revenue spontanément en proposition d'œuvre pour cette expo, puisque la maison est réalisée quand même en béton. et qui la connaît depuis gamin.
Des formes colorées qui se déplacent dans l'espace de la feuille, comme des gouttes d'eau ou comme de l'eau qui ferait un long parcours souterrain pour aboutir à la source, quoi. Ça évoque plutôt des mouvements, comme des mouvements dans l'espace, quoi. Des mouvements naturels, comme l'eau, ou les nuages, ou les cellules dans le corps. Donc on ne sait pas très bien si on est dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand, quoi, je dirais. Mais c'est surtout l'idée de mettre la couleur en mouvement dans l'espace. Puis après, de jouer éventuellement avec d'autres matériaux pour la sculpture, qui vont bénéficier d'autres éléments naturels comme le soleil, la pluie, l'ombre, la lumière. Dans l'espace, alors.
Alors, des œuvres de Gérald Edrenne, qui sont, pour celle-ci, des œuvres en bois taillées à la tronçonneuse, à la scie sauteuse, des œuvres plus anciennes.
Comme l'œuvre n'est pas encadrée, le papier est un matériau, je trouve, qui s'accorde très bien avec la matière des murs. Finalement, c'est quand même assez proche, parce que ces feuilles de papier sont fabriquées avec de la fibre. Je trouve qu'il y a un rapport avec la technologie du béton, des ferraillages, la projection de la pâte, pâte végétale, pâte minérale. Matière brute qui n'est pas transformée, quoi. Les bords de la feuille témoignent de la dimension du cadre dans lequel la pâte a été déposée pour réaliser cette feuille de papier.
Valérie Vogt, qui nous a fait une très belle pièce qui est présentée à l'arrière de la maison, la face nord. Je lui ai proposé cet espace, connaissant son travail. Elle joue avec la nature et apporte beaucoup de lumière. Et elle a proposé deux projets. Celui-là a été retenu et réalisé sur place. Donc c'est une structure en bois et en inox polymiroir, nommée Plus de lumière, Mehrlicht.
De tous ces créateurs des années 20 jusqu'aux années 70 peut-être, environ cette période-là m'intéresse particulièrement. Bien sûr, les débuts de l'abstraction, mais aussi l'idée d'introduire le mouvement en art chez Calder, d'utiliser les éléments naturels, le vent. À plusieurs reprises, j'ai essayé aussi de réinterpréter, quoi, je dirais, la démarche, notamment en faisant bouger les éléments à l'aide de moteurs électriques silencieux, avec des formes qui peuvent aussi s'apparenter aux formes créées par Calder, mais qui sont des formes très primaires aussi, qui appartiennent, je dirais, à la nature, à la science aussi, puisque maintenant on sait observer des cellules à des dimensions microscopiques, etc. Donc, ce que Paul Klee évoquait en disant « rendre visible », c'est réalisé aujourd'hui, quoi, je dirais. C'est l'art rend visible. Mais c'est vrai que j'ai grande dette envers Calder, mais c'est plus, je dirais, plus qu'une dette, c'est plutôt un hommage que je veux lui rendre. Et surtout de ne jamais oublier ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont disparus, quoi.
Alors, c'est Michel Leonardi, artiste liégeois, qui a un travail principalement sur la couleur et en art public, vient avec des grands disques colorés et le soleil projette ses couleurs sur le sol. Il y en a notamment une à Liège sur le boulevard d'Avroy et au carrefour Saint-Gilles.
Et la maison où votre travail est exposé, dans laquelle nous parlons, comment l'éprouvez-vous ?
J'ai l'impression d'être dans une sculpture, à l'intérieur d'une sculpture, qui évoque des souvenirs très très anciens, très lointains. Quand je suis à l'intérieur de la maison, j'ai difficulté à imaginer qu'elle est en béton. Je l'imagine plutôt en terre. Et donc elle évoque tous ces habitats primitifs depuis l'époque des cavernes, mais aussi des tombeaux. Il y a quelque chose en relation avec des architectures primaires très fortes, très vécues, si je puis dire. Et curieusement, j'ai pas l'impression d'être dans une peinture abstraite. J'ai l'impression d'être à l'intérieur d'un organisme vivant. Naturellement, c'est dû aussi au choix des créateurs de cette maison qui ont voulu lui donner une vie en accord avec les éléments naturels, avec l'évolution du soleil. C'est une maison qui vit avec toutes les heures du jour et de la nuit, par les entrées subtiles, pas stéréotypées du tout. C'est le même raisonnement qui guide les circulations à l'intérieur de l'espace, qui guide les espaces qui sont plus comprimés ou qui entrent en expansion, je dirais presque. Donc pour moi, c'est vraiment ça, l'architecture organique. On est dans un corps, oui, tout à fait.
Des œuvres de Robin Vaucard, actuelles et anciennes. Les pierres, les petits granits, là, c'est des œuvres plus anciennes, mais il a réalisé aussi une œuvre en béton, en lien avec l'exposition ici, par rapport à la maison. Émile de Smet nous propose aussi une très belle pièce dans le jardin, Zingara.
Une architecture du sensible, du chant. Il y a une forme de lyrisme, bien sûr, mais il y a aussi, je crois, la volonté d'être en symbiose, d'être naturel dans le sens le plus positif, je dirais. Malgré les difficultés, malgré peut-être pour beaucoup de personnes, vivre ici symboliserait plutôt un manque de confort et un manque de modernité, si je puis dire. Enfin, une forme de modernité telle qu'on la demande maintenant dans l'habitat. Mais je pense à l'inverse, on est plongé dans ses racines.
Vincent Servet.
Il a peu construit, oui. Moi, personnellement, je ne le connais que par téléphone, on va dire ça comme ça, parce que à son âge, voilà, les choses sont comme ça. Il souhaite rester chez lui par rapport à tout ça. Et on a une relation téléphonique de temps en temps par rapport à le fait de prendre connaissance et le fait de comment on fonctionne dans les espaces. Et ça l'intéresse, manifestement, ça l'intéresse bien. Et effectivement, il a assez peu construit, donc il a cette maison-ci, qui est sa maison la plus connue. Il a fait une maison pour lui-même à Ouffet, qui n'a pas été complètement terminé et puis qui a eu une vie un peu différente. Et il a quand même construit avant ceci deux, trois constructions plus classiques dans la composition, hein, plus géométriques, on va dire ça comme ça. Et puis finalement, assez peu, hein, globalement, assez peu construit, mais énormément enseigné. Et surtout, énormément... Il a des disciples, entre guillemets. Hein, donc son enseignement, on va dire, d'architecture organique, mais qui n'est pas que ça, a fait beaucoup de disciples. Donc il y a Bernard Herbeck, il y a Henri Chaumont, enfin il y a toute une série d'architectes dans la région liégeoise, je pense un petit peu plus large aussi, qui ont un peu rayonné ce mode de fonctionnement, qui existe toujours maintenant d'ailleurs. Oui.
La plupart des artistes qui exposent ici sont ici parce qu'ils ont bénéficié des connaissances et d'enthousiasme de Vincent pour la sculpture contemporaine, et pour les problèmes techniques à résoudre, pour les calculs. Des matériaux, des structures, etc.
Liège hors les murs. À la châtaignerie à Flémal, efflorescence. Jusqu'au 3 novembre. Par la Fondation Province de Liège pour l'art et la culture.
Si on change, hein, donc d'une habitation, ça devient des bureaux, ça c'est la première chose. Mais ce que je veux, moi, absolument, c'est maintenir l'esprit, maintenir la volumétrie et maintenir l'esprit constructif qu'il y a autour. Donc ça, c'est s'engager sur la façon dont on va la restaurer. Et bien sûr, on est quand même au XXIe siècle. Mon activité est dans le domaine de la construction des bureaux d'études. Donc il y a des compromis qu'on va devoir faire, notamment par rapport à la thermique du bâtiment, l'isolation, ce genre de choses. Et donc ces choix-là, c'est pour ça que la première cellule que je vous ai montrée, c'est là qu'on va faire nos essais, le temps de trouver le bon compromis, je vais dire ça comme ça, pour pouvoir le généraliser après un petit peu aux différents espaces. Et donc ce sera une restauration, pas pur jus exactement à l'identique. Certaines parties ne bougeront presque pas, parce que dans les espaces de vie, les qualités spatiales et les qualités du vitrage avec les raccords sont tellement belles que ce sera compliqué de faire mieux, on va dire ça comme ça. Mais dans les espaces où on va travailler et où on est plutôt statique à un bureau, on amènera un peu de confort thermique par rapport à ça.
Quai 4, hors les murs, maison sculpture, jusqu'au 31 octobre. À Angleur, rue de la Belle Jardinière, au 318. Avec, à la châtaignerie à Flémal, Paul-Émile Motard, Isabelle Neret, Guy Vandeloise. À la maison sculpture, quai 4 hors les murs, Cécile Servet, Vincent Servet, Michel Leonardi.
Je pense que la demande a été faite pour construire une habitation expérimentale qui n'était pas seulement destinée à l'habitat. Donc c'était l'idée de construire une sculpture qui pourrait être habitée. Et ils ont joué sur cette subtilité-là, quoi. Donc l'idée d'une sculpture habitable. Et donc ils ont évité les normes liées à l'habitation, je dirais plutôt.
Liège hors les murs, partie Régionico. Thank you.